d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 29 mars, il est 17h30 à Washington. Anastasie Tudiège avec vous. Bienvenue. Au sommaire de votre journal, au Mali, au moins 2 personnes tuées lors d'une nouvelle attaque de présumés djihadistes dans le centre du pays. 15 éleveurs tués dans le nord du Nigeria dans ce qui semble être une attaque criminelle. En Égypte, Abdel Fattah al-Sissi est réélu avec plus de 90% des voix. Et puis, rencontre historique, les deux Corées seront réunies en sommet le mois prochain. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais tout d'abord le journal. Au moins 2 personnes ont été tuées la nuit dernière dans le centre du Mali. L'attaque attribuée à des individus armés a eu lieu à Bandiagara, que le premier ministre Soumeilou Boubey Maïga a pourtant visité la semaine dernière. Mamoudou Bokoum à Mopti.
À Bandiagara, hier soir, aux alentours de 21h, 5 hommes armés ont fait irruption sur l'hôtel au niveau du rond-point. Il s'agit bien de l'hôtel La Falaise. Apparemment, c'est une attaque ciblée contre cet hôtel. Les 5 hommes ont ouvert le feu d'abord sur un garde qui était pointé à la porte et qui a été d'ailleurs blessé et finalement qui a succombé à sa blessure. Après, il y a eu riposte des gardes qui étaient au niveau de la BMS, une banque contiguë à l'hôtel. Il y a eu échange de tirs pendant quelques minutes. Un renfort a été appelé au niveau de Bandiagara où il y avait quelques éléments de la garde et de la gendarmerie qui ont pu quand même riposter un peu et ont dispersé les assaillants qui sont fondus aujourd'hui dans la nature. Donc le bilan est le suivant. 2 morts, un garde et un assaillant et 3 blessés. Parmi les 3 blessés, il y a 2 employés de l'hôtel. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée.
C'était Mamoudou Bokoum à Mopti. Au Nigeria, 15 éleveurs ont été tués dans une attaque dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays. Selon les premières enquêtes, il s'agit d'une attaque criminelle attribuée à des voleurs de bétail. La région est en proie à des affrontements fréquents entre agriculteurs et éleveurs. Faisons le point tout de suite avec Blanche Sanou.
Des hommes armés sont arrivés à moto dans le village de Baoundaji et ont abattu 15 personnes avant de s'enfuir. L'annonce a été faite par le porte-parole de la police de Zamfara, Mohamed Tchéou, qui a attribué l'attaque à des voleurs de bétail. Un responsable des autorités locales, Gado Anka, a confirmé le bilan qu'ils sont revenus 2 heures plus tard et ont attaqué les personnes en deuil lors des funérailles des victimes dans le cimetière, tuant 3 autres personnes et en blessant plusieurs autres. En 2016, l'armée a été déployée dans l'état de Zamfara pour tenter de régler les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Ces violences sont récurrentes. Elles ont amené des villageois à constituer des milices d'autodéfense pour lutter contre les bandes armées dans les zones rurales.
Blanche Sanou. Au Cameroun, l'audience de 8 accusés, dont l'un des leaders de la contestation anglophone, Mancho Bibisi, a été ajournée au 13 avril, aujourd'hui. Un avocat camerounais a demandé au président Paul Biya d'ordonner l'arrêt des poursuites. Le ministre kényan de l'Intérieur et le chef de la police kényane ont été condamnés aujourd'hui à des amendes pour avoir expulsé vers le Canada un opposant du pays en dépit de décisions de justice. Et c'est la 2e fois ce mois-ci. Habitué aux provocations verbales sur les plateaux de télévision, l'opposant avait dit à une politicienne en marge d'un débat « Tu es tellement belle que tout le monde veut te violer ». Lagos, la capitale économique du Nigeria où vivent quelques 20 millions d'habitants, a été paralysée aujourd'hui en attendant la première visite officielle du président Muhammadu Buhari depuis le début de son mandat il y a 3 ans. C'est ce qu'a constaté l'AFP. Abdel Fattah al-Sissi va être reconduit sans surprise à la tête de l'Égypte avec plus de 90% des voix après une élection présidentielle marquée par une participation de moins de 42% selon les premières estimations. Les résultats officiels seront proclamés lundi. Nathalie Barge.
Malgré les menaces de sanctions sur les abstentionnistes, seuls 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur près de 60 millions d'inscrits. Abdel Fattah al-Sissi l'a emporté haut la main avec 92% des voix après avoir obtenu 97% en 2014. Selon les résultats partiels, à Alexandrie, le président sortant a remporté 1,2 million de voix contre 40 000 pour son adversaire, avec un taux de participation de 37%. Le seul autre candidat, Moussa Mostafa Moussa, homme d'affaires, partisan du chef de l'État, a remporté 3% des voix, selon les premières estimations d'Alaram. Chef du parti Al-Gad, il s'était lancé dans la course. Sa candidature a permis d'éviter au président Sisi de faire cavalier seul. D'autres candidats potentiels ont été emprisonnés ou découragés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et sur la scène internationale, rencontre historique. Les deux Corées se rencontreront donc le 27 avril pour un sommet rarissime avant un autre face-à-face tout aussi historique avec le président américain Donald Trump en mai. Des précisions, Morgane Guériec.
Ce sommet est le troisième du genre après les rencontres de 2000 et 2007 à Pyongyang. Cette fois-ci, la réunion se tiendra à la Maison de la Paix de Panmunjom, village dans la zone démilitarisée où a été signé l'armistice entre les deux Corées. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre. Cette semaine, il a effectué son premier voyage à l'étranger. Il s'est rendu en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping. Un autre sommet historique entre le leader nord-coréen et le président américain doit être organisé au mois de mai. Les Jeux olympiques d'hiver, le mois dernier, ont été le catalyseur de ce rapide processus de rapprochement après 2 ans d'escalade. D'ailleurs, Thomas Bach, président du Comité olympique international, est arrivé ce matin en Corée du Nord pour une visite de 3 jours.
Toujours dans l'actualité internationale, plusieurs responsables russes ont dénoncé aujourd'hui le refus de l'ambassade des États-Unis à Moscou d'accorder un visa aux membres de la sélection russe de lutte libre une semaine avant le début de la Coupe du Monde à Iowa City. Selon le président de la Fédération russe de lutte libre, les membres de la sélection avaient rendez-vous hier à l'ambassade américaine pour recevoir leur visa, mais l'ambassade a refusé d'organiser cet entretien. Israël a averti aujourd'hui les Nations Unies de son droit à se défendre à la veille d'un grand mouvement de protestation organisé par les Palestiniens dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec l'État hébreu. Des familles de Palestiniens comptent planter des centaines de tentes dans la bande de Gaza à partir de demain vendredi. Le mouvement de protestation en soutien aux réfugiés palestiniens doit durer 6 semaines. La justice française dira le 13 juin si elle accepte la demande d'extradition du Burkina Faso à l'encontre de François Compaoré, frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Âgé de 64 ans, François Compaoré, qui comparaissait libre, a été arrêté à l'aéroport parisien de Charles de Gaulle fin octobre en raison d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017. Toujours en France, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant la justice. Il lui est reproché d'avoir tenté d'obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, qui était alors haut magistrat à la Cour de cassation. En Allemagne, 4 Syriens âgés de 18 à 27 ans ont été placés en détention, soupçonnés d'avoir attaqué une mosquée de la communauté turque à Ulm. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les autorités, qui n'excluent pas un acte motivé politiquement. L'un des 4 jeunes interpellés a reconnu les faits selon la même source. À l'occasion du Jeudi Saint, après une brève rencontre en privé avec des prisonniers malades, le pape François a célébré la messe de la Seine et le rite du lavement des pieds avec 12 détenus de 7 pays différents, dont 2 musulmans, 1 orthodoxe et 1 bouddhiste, le tout dans une prison romaine pour hommes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Le Gabon, pays d'Afrique centrale, producteur de pétrole, frappé par la chute du baril depuis 2014. Ce pays prévoit plus de flexibilité dans ce secteur avec un nouveau code des hydrocarbures qui pourrait être présenté en juin. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités gabonaises. Le dernier code gabonais date de 2014 et figure parmi les moins avantageux d'Afrique pour les entreprises. Et ce, selon plusieurs pétroliers et experts du secteur qui ont subi la chute du prix du baril, passé de $100 en 2014 à $60 aujourd'hui. L'État ivoirien a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix du kilogramme de fèves de cacao à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire 2017-2018. Malgré l'embellie des cours internationaux ces derniers mois, le gouvernement n'a pas jugé utile de procéder à une augmentation du prix, synonyme d'une hausse des revenus pour les producteurs. L'Éthiopie a attiré 2,2 milliards d'investissements directs étrangers au cours du premier semestre de l'année budgétaire en cours, selon la Commission éthiopienne des investissements. Les secteurs d'activité qui ont le plus bénéficié de ces investissements sont principalement les industries manufacturières et les productions orientées vers l'exportation.
Place au sport avec vous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Anna.
Sébastien Minier a quitté son poste de sélectionneur. On est au Congo.
Tout à fait, Anna. L'ancien adjoint de Claude Leroy a résilié d'un commun accord son contrat avec la Fédération congolaise de football. Une rupture de contrat qui intervient au lendemain de la victoire des Diables Rouges contre la Guinée-Bissau en amical 2-0. Sébastien Minier dit être fatigué du manque d'organisation. Dernier épisode en date, le stage à Paris la semaine dernière avec l'annulation dans un premier temps du match contre la Guinée-Bissau et le coup de gueule de Thievi Bifouma qui a quitté ses coéquipiers en plein stage pour dénoncer les conditions d'organisation. Sébastien Minier avait pris les rênes des Diables Rouges en mars 2017.
Au Gabon, les élections à la Fédération de football ont été reportées.
Tout à fait, Anna. Elles étaient initialement prévues pour le 31 mars. Eh bien, ces élections-là sont reportées et auront lieu finalement le 21 avril. Pas de changement parmi les candidats déclarés. 5 sont en liste, dont le sortant Pierre-Alain Mougengui. Les autres prétendants sont Blanchard Ndoum, Jérôme Effong Nzolo, Basco Alabafal et Placide Xavier Bourdette. La campagne électorale s'ouvre le 3 avril et se referme le 20, puis place aux élections le 21 avril à Lambaréné.
Yacouba, vous le savez mieux que moi, la passion du foot, souvent poussée à l'extrême, peut créer de drôles de nouvelles dans les bulletins de sport. En Grèce, le patron du PAOK a été interdit de stade.
Tout à fait, Anna. Une peine d'interdiction de stade de 3 ans pour Ivan Savidis, le patron du PAOK Salonique. La Ligue de club de football grec a également infligé une amende de 100 000 euros au président du club, tandis que le PAOK perd 3 points au classement, ce qui le rétrograde. En 3e position du championnat de première division, le club devra en outre payer une amende de 63 000 euros, mais dans la foulée, il a dit qu'il fera appel de ses sanctions. Pour rappel, Ivan Savidis a fait irruption une arme à la ceinture sur la pelouse le 11 mars lors d'un match face à l'AEK et pour protester contre une décision arbitrale. Le championnat a été suspendu depuis lors, il reprendra finalement ce week-end.
Ah, c'est vraiment la passion mordante, hein.
Tout
la
à
passion
fait, Anna,
dévorante.
Si vous vous rappelez encore rien qu'hier, on parlait des conditions d'organisation des matchs pour les pays africains lors des journées FIFA et voilà que l'entraîneur du Congo, Brazzaville bien sûr, a jeté l'éponge pour dénoncer bien sûr les conditions d'organisation. On se rappelle encore que lors du premier match annulé face à la Guinée-Bissau, il a manqué au Congo de payer juste 10 000 euros. C'est que le joueur Thievi Bifouma n'a pas admis. Il dit non, c'est pas possible que tout un pays ne puisse pas payer 10 000 euros pour organiser un match. Eh bien, il a décidé de jeter le pont. Il a quitté ses coéquipiers. C'est vrai, c'est un vilain geste. C'est pas du tout intéressant parce que bon.
C'est pas un geste sportif, en tout cas.
Oui, c'est pas du tout sportif, mais à un certain moment donné, il faut des comportements comme ça aussi pour faire comprendre au grand public dans quelles conditions ces joueurs-là internationaux ou qui évoluent généralement dans des clubs où tout est bien structuré, tout est bien parfait. Et là encore, ça se passe au quotidien dans les clubs, mais malgré cela, il n'y a pas de différence dans l'organisation. Alors qu'en équipe nationale, c'est juste, on vient juste pour une semaine, 10 jours, et lorsque juste pour une semaine, 10 jours, le pays n'est pas capable d'organiser correctement un match, alors qu'on sait que généralement, on fait la cour à ces internationaux-là pour qu'ils viennent représenter les couleurs du pays, et
avec
donc il faut mettre
milliers,
quand même
voilà,
les moyens et
dollars.
Puis l'organisation qu'il faut pour éviter que ce genre de situation-là arrive plusieurs fois, parce que là, c'est la face du Congo et toute l'Afrique qui est versée, comme on le dit.
Il est toujours du côté du sport. C'était Yacouba Ouedraogo. Merci.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Vous écoutez.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cette fois, c'est la bonne. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Au Niger, la justice a ordonné la réouverture de la télévision privée Labari, fermée dimanche après une manifestation interdite. Quatre leaders de la société civile, dont Ali Idrissa, directeur de Labari, sont actuellement placés sous mandat de dépôt. Irénée Herman Ungbo a joint leur avocat, Maître Boudal et Fred Mouloud. Écoutons-les.
Et on les accuse d'organisation et participation à une manifestation interdite, complicité de violence, voie de fait, dégradation des biens publics, et pour avoir provoqué une manifestation par des écrits et affiches et autres.
Des accusations que vous reconnaissez, c'est ça?
Non, mais exactement, j'allais vous dire qu'on leur reproche ce qu'ils n'ont exactement pas fait, parce que je vous fais remarquer que... Toutes ces quatre personnes ont quelque chose de commun, c'est qu'elles ont été arrêtées à leur service.
La manifestation avait été interdite, mais ils ont bravé l'interdiction. Il fallait quand même s'attendre à des sanctions, non?
Moi, je vous fais remarquer que l'un des acteurs a été arrêté le 25 à 11h du matin. À 11h du matin, il n'y avait pas de manifestation. Il était au niveau des locaux de Alternative Espace Citoyen, devant son bureau. Il a été arrêté. Il était parti rentrer. Il pensait et il continue de croire qu'il a été arrêté parce qu'on a reçu l'ordre qu'il ne rentre pas dans son bureau. Et les autres acteurs ont été en grande majorité arrêtés alors qu'ils étaient en concertation. Donc, ils n'étaient pas des manifestants. Il n'y a pas des infractions par anticipation. Ceux qui voulaient les arrêter auraient dû et surtout pu attendre qu'ils posent des actes. Mais on ne peut pas prévoir des infractions.
Alors que risquent-ils maintenant, puisqu'ils sont détenus dans les geôles de la prison nigérienne?
Oui, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le plus proche d'entre eux est à 5 km de la capitale. Donc la justice a décidé de les séparer, de ne pas les mettre, c'est souverain, de ne pas les mettre dans un seul camp de détention. Donc l'un est à Wallam, l'autre à Filingué, l'un à Tillabéri et un autre à Dakana. C'est à 100 et quelques kilomètres de Niamey avec des voies difficiles. Et c'est difficile même pour nous, leur conseil, d'avoir des contacts permanents avec eux, ce qui est nécessaire. Leur famille, on n'en parle même pas. Je vous fais remarquer que c'est ça notre surprise. Mais bon, on ne peut pas présager de l'intention de ceux qui ont décidé de les faire. Nous respectons la justice.
Vous êtes l'avocat de la radio-télévision La Baria. Est-ce que l'organe a repris ses programmes?
Hier, nous avons saisi le juge de référé. Le juge de référé a ordonné, a constaté d'abord et dit qu'un trouble manifestement illicite. Il a ordonné que les forces de l'ordre qui étaient stationnées quittent et laissent le personnel de la radio-télévision La Baria accéder à leurs locaux. Au moment où je vous parle, jusque-là, c'est le statu quo. L'état d'une gêne ne s'est pas exécuté.
Au téléphone, c'était Maître Boudal et Fred.
La double nationalité, pour ou contre? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Richesse pour certains, trahison pour d'autres. La double nationalité fait régulièrement débat sur le continent africain. Peut-on s'identifier à deux pays en même temps? Faut-il au contraire choisir sa patrie? En sport ou en politique, un citoyen peut-il représenter son pays tout en se revendiquant d'une autre nation? Peut-on voter dans plusieurs pays? Vos réactions ce soir dans À votre avis, Morgane Guiriec en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir.
Au Cameroun, durcissement dans la crise anglophone des groupes armés agissant au nom des séparatistes anglophones multiplient les attaques contre les officiels camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette radicalisation continue de monter ces derniers jours. C'est une correspondance d'Emmanuel Jultap à Yaoundé.
Un préfet blessé par balle, un responsable ministériel tué, un otage tunisien abattu par ses ravisseurs, une quarantaine de personnes enlevées, certaines relaxées. Ces actes sont attribués aux séparatistes anglophones dans les deux zones du pays. Pour le politiste Aristide Monod de l'Université de Yaoundé 2, la crise dite anglophone a changé de variable.
L'État central est en situation de reconquête de ses territoires. L'État camerounais a été déséquilibré. Nous sommes passés de la révolte civile à la résistance armée classique et asymétrique.
Pourtant, la nomination d'un anglophone, Paul Atangandi, le 2 mars dernier au prestigieux poste de ministre de l'administration territoriale, avait été présenté comme annonciateur de la CALMI. Avis partagé par ces deux Camerounais anglophones résidant à Bamenda.
Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'une anglophone a pris cette poste-là. Avec ça, là, ça va résoudre tous les problèmes qui nous dérangeaient.
Le président Paul Biya a toujours pris soin des anglophones. La nomination de ce ministre de l'administration territoriale le témoigne et va régler la crise.
C'est quelques jours après la nomination de Paul Atangandji que les séparatistes ont porté de sérieux coups à la sécurité du pays. Une coïncidence des faits qui a valeur de message envoyé au président Paul Biya. Aristide Mono, politiste.
L'opération des enlèvements a été un moyen de prouver qu'en fait, ces dernières mesures sont loin d'être opérantes sur le terrain. Il s'agit d'un rejet global de toutes les dernières mesures prises par l'État central pour essayer de solutionner la crise anglophone.
Pour la première fois, certains groupes armés opérant en zone anglophone ont fait des demandes de rançon pour libérer les otages. L'État camerounais devrait donc vite agir pour briser la tendance à la radicalisation actuelle, pense Dr Nick Ngwangwa, homme politique et directeur de l'université Saint-Louis à Bamenda.
On doit vite rentrer à cette table de dialogue-là, un dialogue avec de respect. Parce que lorsqu'on parle dialogue, les autres disent on va dialoguer avec qui ? Les séparatistes, mais il faut dialoguer avec tout le monde, parce que c'est tout le monde qui se sent laissé.
Pour la tenue des dernières élections sénatoriales, l'armée camerounaise a dû mobiliser les gros moyens pour assurer la sécurité des deux zones anglophones, Yaoundé, Emmanuel Jules-Ntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, ouverture d'une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre l'opposant Moïse Katumbi. C'est le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, qui l'a annoncé hier. La République démocratique du Congo ne reconnaît pas la double nationalité, alors que de récentes informations font état de la nationalité italienne de l'opposant en exil. Pour analyse, Ekiabadou a joint à New York l'avocate d'origine congolaise Bibi Moussafiri. Elle est spécialiste en droit de l'immigration. Écoutons-la.
La double nationalité, en général, cela dépend de chaque pays. Il y a des pays qui ont des législations qui interdisent, donc c'est une prohibition. Et il y a des pays qui, tout simplement, ne donnent pas effet à la double nationalité. Donc, vous pouvez être congolais et si la législation ne dit pas que vous êtes complètement interdit de prendre une autre nationalité, vous pouvez la prendre, mais simplement elle n'aura pas effet dans votre pays. Ça peut être le contraire où la législation dit c'est prohibé. Ça veut dire que si vous êtes congolais et que vous prenez une autre nationalité, à ce moment-là, vous perdez la nationalité congolaise parce que la Congo n'accepte pas. La législation, tout simplement, ne permet pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu la double nationalité. Mais je ne pense pas qu'il y a une réelle prohibition.
Quels sont les risques pour M. Katumbi ?
D'abord, il y a un article qui en fait dit qu'il a eu la nationalité pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Ça veut dire qu'apparemment, il n'est plus italien à ce moment-ci. Si cela était dans le passé, ça ne devrait plus avoir de conséquences. L'article en fait voulait pouvoir faire savoir que en 2016, quand il se présentait comme candidat, il était encore sous la double nationalité. S'il était sous la double nationalité à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas se réinscrire pour en fait avoir un dossier totalement clair. En se présentant comme candidat maintenant, il n'a pas la double nationalité.
Il a derrière lui une condamnation dans l'affaire Stoupi et ça le rendrait inéligible.
La plupart du temps, les gens assument. Ils disent par exemple que si vous avez été condamné pour avoir fait telle affaire, est-ce que dans le dossier Stoupi, il a été condamné? Oui, mais est-ce que c'est un crime? Il faut savoir. Quelles sont effectivement les dispositions de cette affaire-là par rapport au juge qui a jugé? Vous pouvez être condamné, mais pas nécessairement un crime. Les crimes ont plusieurs degrés. De quel degré de crime? La justice dite sur la place publique et la justice comme une profession légale est totalement différente. Et pour ça, il a plusieurs recours. Il doit pouvoir clarifier ce qui est juridiquement vrai et ce qui ne l'est pas. Quand il a des empêchements réels à se présenter comme aux élections, il a la possibilité de faire les recours nécessaires. Le cas Stupi, par exemple, peut-être qu'il peut faire appel, faire des appels jusqu'en cassation. Et que tant que ces appels ne sont pas épuisés, personne ne pourrait dire qu'il a été condamné, parce que l'appel n'est pas encore déterminé.
C'était Bibi Moussafieri, avocate spécialiste en droit de l'immigration, jointe à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Kim Jong-un, le leader nord-coréen, a effectué cette semaine sa première sortie en Chine. Il doit le mois prochain participer à un sommet avec son homologue sud-coréen. Une autre rencontre historique est prévue au mois de mai, cette fois-ci avec le président américain. Pour évoquer sa première sortie à Pékin, Idriss Fall a joint Alice Ekman, elle est spécialiste de la Corée du Nord, à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
C'est un coup diplomatique, c'est-à-dire c'est un gain diplomatique pour la Chine parce qu'elle coupe l'herbe sous le pied des États-Unis en organisant la première visite officielle à l'étranger de Kim Jong-un. Il ne faut pas sous-estimer les proximités à la fois stratégiques, bureaucratiques et idéologiques entre Pékin et Pyongyang. Certes, Pékin, au cours de l'année écoulée, était mécontent des essais, des tests balistiques et nucléaires répétés du voisin nord-coréen. Mais c'était une insatisfaction relative. Pékin a toujours été, en tout cas au cours des 5 dernières années, mécontent des exercices militaires conjoints conduits par les États-Unis avec ses alliés dans la région, en premier lieu la Corée du Sud. Pékin se plaint également des opérations de surveillance américaines à proximité de son territoire. Donc il faut bien prendre en compte le rapport de force dans la région. On s'achemine vers une rencontre Trump Kim Jong-un, qui portera bien sûr sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et la péninsule coréenne, puisque c'est bien le sujet qui fâche, c'est bien le sujet au cœur des négociations. Mais quelles seront les conditions de cette négociation? À mon avis, le camp des non-alliés, c'est-à-dire la Corée du Nord, mais aussi la Chine, qui vont essayer de négocier cette dénucléarisation.
Quand sera-t-il entre les deux Corées? Ce sera la première fois que, quand même, Kim Jong-un va sortir et rencontrer son homologue sud-coréen.
Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des deux Corées, hein, puisqu'il y a déjà eu des rencontres d'État qui n'ont pas donné lieu à une stabilisation de la péninsule, mais il y a déjà eu des rencontres. Bon, si, on va dire que c'est inédit sous la période de Kim Jong-un, mais à mon avis, le rapport de force reste en présent. La Chine et la Corée du Nord ont une perception différente de la résolution des tensions de celle de la Corée du Sud et des États-Unis. Les points de clivage sont nombreux. Aujourd'hui, on assiste à une accélération des rencontres tous azimuts et accélération des négociations, accélération du calendrier. Mais il est très difficile aujourd'hui d'envisager une résolution imminente des tensions, ou en tout cas un accord entre les deux Corées, compte tenu des divergences existantes et en toile de fond de la rivalité forte existante entre la Chine et les États-Unis qui pèse sur la résolution de la crise. En tout cas, je pense que c'est cette rivalité qu'il faut prendre en compte lorsqu'on analyse aujourd'hui les rapports de force et le développement des négociations et des rencontres en cours.
C'est l'analyse d'Alice Ekman, spécialiste de la Corée du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Elle a été mise en onde, cette édition, par Sim Slomami, assisté à la console de Thomas Blanday, à la présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact via Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.